Frédéric Dugraine, donc c'est le réseau Rhône-Alpes d'éducation à l'environnement et développement durable. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et donc on va commencer. Qu'est-ce que le Graine et aussi qu'est-ce que l'éducation à l'environnement et au développement durable? Un bien grand mot.
Oui, on a une heure pour en parler, donc heureusement. Donc le Graine, c'est une association, un réseau régional qui existe depuis une vingtaine d'années sur la région Rhône-Alpes et qui a pour objet de développer l'éducation à l'environnement sur tous les territoires de Rhône-Alpes, pour tous, à tous les âges de la vie. Et pour faire ça, de mettre en réseau l'ensemble des acteurs éducatifs ou de la formation qui interviennent sur ce champ de l'environnement et du développement durable. Et quand on dit éducation-environnement, il ne faut pas entendre simplement le mot éducation comme étant seulement dans l'école, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment dans une perspective plus globale d'élargissement à tous les publics, aux publics adultes, aux salariés. Donc on est vraiment dans des actions de formation, de sensibilisation, d'éducation, bien sûr toujours en direction des jeunes, à l'école et en dehors de l'école, mais aussi de plus en plus de participation, d'accompagnement de processus de participation collective, d'accompagnement des initiatives qui sont prises par les habitants sur leur, dans leur quotidien, dans leur cadre de vie, pour trouver des solutions collectives et partagées qui visent à résoudre un certain nombre de problématiques environnementales et sociales.
Donc avec les habitants, c'est des habitants qui peuvent être organisés ou pas forcément?
Voilà, organisés ou pas, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de structures d'éducation à l'environnement un peu historiques qui travaillent avec des centres sociaux, des maisons de l'enfance, des MJC ou des groupes d'habitants, des conseils de quartier. Et l'objectif, c'est bien de trouver des solutions ensemble, collectives, au plus proche des besoins et de la vie quotidienne de chacun pour changer le monde et acter concrètement la transition écologique dans laquelle on est de toute façon engagé pour les années qui viennent.
En fait, vous mettez en rapport, vous coordonnez, ça se situe à quel niveau?
Alors en fait, nous en tant que réseau régional, on peut dire qu'on ne fait pas d'action de terrain, puisque ce sont nos adhérents, les acteurs de terrain qui le font. Nos missions principales sont de deux ordres. En amont des activités, faire tout ce qu'il faut pour améliorer la qualité, accompagner des porteurs de projets. Donc c'est des actions de formation des formateurs, formation des enseignants, formation des animateurs, formation des accompagnateurs.
Donc vraiment en amont. Au sein du réseau.
Et ça, au sein du réseau, on développe une stratégie, un plan de formation réseau, enfin des actions coordonnées. On met en valeur ceux qui justement ont des compétences à transmettre. Donc ça, c'est de la formation assez classique, mais c'est le plus souvent d'ailleurs de la co-formation, qu'à partir vraiment de la pratique concrète des animateurs. On a là un véritable enjeu actuellement de changement des pratiques des animateurs qui sont beaucoup formés pour travailler avec un public jeune, pour aller vers de l'accompagnement du changement en direction de public adulte, comme je disais tout à l'heure. Et puis la deuxième mission qu'on a, c'est en aval de ces activités, les valoriser, les porter, les rendre visibles. Et ça va jusqu'à faire un travail de représentation auprès des partenaires publics pour qu'il y ait en Rhône-Alpes et sur tous les territoires de la région, et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, des politiques publiques qui n'oublient pas que pour la transition écologique, pour trouver des solutions aux problématiques environnementales, il ne faut pas oublier le citoyen, il ne faut pas oublier les gens, les personnes. Donc on est là aussi pour rappeler qu'il n'y aura pas de développement durable ou de transition écologique sans éducation, sans formation, sans participation des citoyens.
Oui, donc quand on parle partenaire institutionnel, c'est pas seulement chercher des subventions, même si effectivement il faut aussi trouver des moyens, mais c'est aussi les interpeller par rapport aux partenaires acteurs que vous pouvez être.
Oui, c'est ça. Alors c'est sûr que c'est aussi une question de moyens. Hein. C'est vrai que nos partenaires à nous institutionnels, c'est l'État avec la direction régionale de l'environnement, c'est aussi le conseil régional, c'est des collectivités locales qui veulent accompagner des projets qu'on porte. Mais c'est pas simplement un partenariat, c'est pas simplement du financement qu'on cherche, c'est qu'on cherche aussi à changer les pratiques et à apporter ensemble une politique, une réflexion concertée, globale, pour développer l'éducation à l'environnement sur les territoires de Rhône-Alpes et essayer d'articuler aussi les politiques publiques du champ de l'environnement, qu'elles prennent mieux en compte cette dimension de la participation, de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation, et puis que tout ça puisse fonctionner au service de la population, en fait, au mieux. Enfin, surtout encore en plus, dans un contexte actuel de baisse des financements publics, on a un vrai enjeu devant nous à mieux articuler les choses. Et puis on se tourne de plus en plus vers des entreprises, vers tout un tas d'autres partenaires privés qui, petit à petit, se rendent compte que les démarches de qualité environnementale ne suffisent pas à créer une dynamique interne de mobilisation des salariés, par exemple, pour trouver un certain nombre de solutions.
C'est un peu, on ne peut plus faire tout seul.
On peut plus faire tout seul.
Il fut une époque où les politiques publiques, c'était l'État, les institutions qui les faisaient tout seul. Mais là aussi, donc, c'est avec vous et ça apporte aussi d'autres pratiques qui ne sont pas celles qui pouvaient préexister dans ces institutions ou dans les entreprises aussi.
Et puis en plus, on peut même presque dire que ce n'est même pas un moyen, c'est presque quelque chose qui est tellement au cœur de ce que c'est que l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'environnement, de transition écologique, de développement durable, si on n'est pas dans une démarche qui porte une alliance des compétences, des savoir-faire des uns et des autres, y compris des savoirs des citoyens dans leur quotidien et des savoirs scientifiques des chercheurs, des pratiques institutionnelles, des pratiques collectives, des pratiques des collectivités. Enfin, tout ça, à un moment donné, doit trouver un espace de dialogue, de concertation pour arriver à trouver les bonnes solutions.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pratique qui nous permette de sentir, de toucher du doigt l'une de vos réalisations, la plus marquante peut-être?
Je pourrais vous donner plusieurs exemples parce qu'on intervient du coup sur plusieurs niveaux. Par exemple, sur le champ de la formation, on développe une action actuellement avec le soutien de la métropole de Lyon qui vise à faire un état des lieux, à la fois des pratiques des animateurs sur le terrain dans des situations d'accompagnement de groupes de citoyens vers une logique de changement de comportement et en même temps de tramer ça avec des travaux menés par des chercheurs en sciences sociales. Donc on est dans l'innovation sociale, on est dans la recherche-action, enfin dans cette volonté-là de faire en sorte que la pratique concrète des animateurs puisse être reliée à des travaux de recherche. Et d'ailleurs, les animateurs ont souvent très peu le temps de prendre des reculs, d'analyser leurs pratiques, et donc on les aide beaucoup à travers cette action à faire ça. Au type d'action, on a développé un dispositif pédagogique régional avec tous les partenaires qui vise à accompagner des projets qui sont menés en partenariat avec des structures du réseau et des porteurs de projets qui peuvent être enseignants, animateurs de centres sociaux, animateurs de maisons de retraite par exemple, et qui vise à trouver des solutions concrètes, une action concrète avec les jeunes pour développer des actions sur leur territoire. Autre action, par exemple, aussi assez forte qu'on a mis en place il y a maintenant quelques années, c'est qu'on a organisé en Rhône-Alpes des assises nationales de l'éducation à l'environnement et du développement durable. C'était les troisièmes. Et on a réuni 1200 personnes pendant 3 jours à Lyon pour réfléchir ensemble avec tous les partenaires publics et privés et tous les acteurs de terrain qui voulaient bien s'y engager à des propositions, des plans d'action sur les différentes thématiques traitées, biodiversité, climat, santé environnementale, développement des politiques publiques dans le champ de l'habitat social ou encore de la ville, du monde urbain, etc. Enfin voilà, tout un tas de problématiques qu'on devait traiter. Et ensemble, on a construit des plans d'action, des stratégies de plaidoyer pour pouvoir justement mieux convaincre, mieux rendre visible et lisible la plus-value, l'intérêt, l'utilité sociale des actions d'éducation à l'environnement et comment elles peuvent apporter des solutions un certain nombre de problématiques environnementales et sociales qu'on rencontre concrètement. Un projet d'éducation à l'environnement, ça peut être un compost citoyen en bas d'immeuble, ça peut être... Mais tout ça, c'est pas simplement un outil. On peut créer des voies cyclables, des kilomètres de... Voilà, c'est pas pour ça qu'il y a des cyclistes qui les empruntent. Donc quelque part, ça questionne notre rapport au monde, notre rapport à notre environnement, et puis notre façon dont on intègre petit à petit dans notre vie de tous les jours... les enjeux dont on entend parler avec la COP21, etc. Voilà. Donc là, on est complètement dans cette problématique actuellement et il y a un tel saut pour nous culturel et qualitatif à faire dans le changement qui est devant nous que ça ne peut pas se faire sans une participation des citoyens et de la plus active possible. Sinon, on va être dans une logique de forcer les gens
d'imposer,
à adopter des comportements qui ne le souhaitent pas. Et du coup, on va perdre beaucoup de temps.
Et ça ne fonctionne pas.
Et ça ne va pas fonctionner.
Voilà. Et vous avez eu des publications suite à ces réflexions, à ces...
Alors on a fait...
Vous avez mis en place des actions, mais elles ont été concrétisées comment?
Alors sur notre site internet, vous allez trouver plein de ressources. On a une rubrique qui s'intitule « Monter son projet d'éducation à l'environnement ». Alors s'il y a des enseignants, des animateurs ou des personnes qui souhaitent se lancer sur le terrain, ils vont trouver déjà un certain nombre de ressources sur le site internet du GREN, comment monter son projet, avec qui, où trouver des partenaires, où trouver des financements. On a aussi pas mal de publications thématiques, parce qu'il y a une action phare qu'on mène depuis que le réseau existe, et même constitutif du réseau, c'est tous les deux ans à peu près, on fait des rencontres régionales, qui ont une entrée plus pédagogique que politique, on va dire, par rapport à ce dont je viens d'évoquer, là, les assises, c'était avec quand même une volonté de
faire pression.
Pas uniquement de faire pression, mais de faire proposition. C'est-à-dire, c'est pas simplement résister, c'est aussi proposer, convaincre et emmener avec nous un certain nombre de partenaires qui sont pas encore complètement convaincus. Donc, les rencontres, c'est plutôt la réflexion pédagogique qu'on peut mener à travers un échange de pratiques sur des thématiques qu'on a. Alors, ça peut être la ville, la biodiversité, le climat,
toutes ces problématiques,
la gestion de l'eau. Enfin, voilà, tout un tas de thématiques. Et à chaque fois, on fait des comptes rendus de ces journées et puis on prépare des dossiers thématiques qui permettent justement, en quelques pages, une dizaine de pages, d'embrasser l'ensemble des enjeux.
Voilà.
Et de leur traduction en termes de pédagogie et de mise en œuvre. Avec un public, en fait, hein, parce que on n'est pas là, nous, pour. On n'est pas des acteurs, on va dire, de la protection de la nature, on n'est pas des acteurs engagés sur le terrain dans la protection de l'environnement, etc. Notre objet, c'est bien l'éducation, la participation, la sensibilisation. Donc notre réflexion, elle est là-dessus. Elle est sur la pédagogie, la communication, les actions de sensibilisation, comment on fait, comment on mobilise un public, comment on fait participer les gens, comment on mobilise toutes les pédagogies actives dans un projet d'éducation à l'environnement. Sans bien sûr oublier que derrière, bien sûr, on est là pour traiter des problèmes environnementaux, hein, bien sûr.
On parlait des assises où là, dans le rôle de réseau régional, il y avait aussi un côté plaidoyer politique, et puis en allant vers le haut et en rassemblant les autres, parce qu'il y a d'autres graines aussi dans d'autres régions.
Oui, voilà, c'était des assises nationales, effectivement, mais qui avaient été précédées par un processus d'assises locales, territoriales. Il y a eu près d'une centaine d'assises sur tous les territoires français, et quand je dis de la France, c'est-à-dire métropole et outre-mer. Et donc on a articulé et on a fait en sorte que je crois qu'il y avait 6 à 8 000 personnes engagées dans ces assises, et donc chacun a pu faire, construire, co-construire ses propositions qu'on a fait remonter, qu'on a partagées, qu'on a consolidées, qu'on a même transcendées pour certaines, en les formulant de manière à ce qu'elles puissent être attrapables par le plus grand nombre d'acteurs, à la fois à l'échelon des territoires locaux, mais aussi à l'échelon national. Et c'est vrai que à la suite de ça, par exemple, au niveau de l'État, il y a eu une réflexion qui s'est menée. Le Conseil économique et social a été saisi sur cette question de l'éducation et l'environnement par le Premier ministre. Il y a eu une table ronde à la conférence environnementale qui a lieu chaque année. Donc, et puis aujourd'hui, les ministères portent quand même un peu plus cette préoccupation de l'éducation à l'environnement.
Donc, vous dites, ouais, il y a ce volet un peu porter les valeurs, et puis aussi. Sur les territoires, les outils, le côté plus pédagogique, et c'est pour en venir aussi au fait que le réseau, tu parlais des adhérents, c'est beaucoup d'associations qui localement...
Alors, on a 170 adhérents actuellement sur Rhône-Alpes.
Sur Rhône-Alpes. Hein.
Voilà. Ouais. Sur l'Auvergne, on a un équivalent qui s'appelle le collectif régional d'éducation à l'environnement en Auvergne, avec lequel on travaille de plus en plus, puisqu'on est à l'échelon d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Maintenant. La région.
Donc au total, ça fait 220 adhérents. Pour les deux réseaux, avec une grosse majorité d'associations. Nous, sur nos 170 adhérents, on a 140-150 adhérents qui sont des structures, dont 140 qui sont des associations. Donc il y a quand même quelques collectivités qui sont engagées dans le réseau. Et puis on a aussi des individus, des militants de l'éducation à l'environnement qui sont aussi engagés et investis dans le projet associatif.
Mais alors vous, en tant que tel, si vous avez ces actions, vous êtes combien, comment vous fonctionnez, vous
avez déjà, comme
probablement des bénévoles.
On a des bénévoles.
Des permanents peut-être.
Oui, on a un conseil d'administration de 17 personnes.
Voilà.
Voilà. Donc c'est des personnes qui sont élues par une assemblée générale. Enfin, c'est assez classique dans le fonctionnement associatif. Mmh. Et on a une équipe actuellement de 6 salariés qui s'est mise en place progressivement au fil du temps. Donc une petite équipe, si on leur met en rapport des enjeux et puis de l'échelon du territoire Auvergne-Rhône-Alpes qui est quand même très... Déjà Rhône-Alpes c'était très, très, très divers en termes de milieux, de problématiques, de territoires entre l'Ardèche, la Haute-Savoie, etc. Voilà, c'était déjà une complexité de travailler ensemble, ça allait encore plus à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a développé des stratégies, des méthodes, des outils... pour arriver à faire en sorte que chaque projet qu'on mène puisse être partagé le plus possible avec les adhérents du réseau. C'est-à-dire que les salariés sont vraiment là, sont animateurs de réseau, c'est le cœur de notre métier, c'est animer le réseau. Et à travers ça, essayer de porter le plus possible, de construire, de co-construire le plus possible les projets qu'on porte avec des adhérents. Par exemple, le dispositif pédagogique dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle les éco-acteurs, enfin qui s'appelait les éco-acteurs, on y reviendra après, et qui a été mis en place par les partenaires, ça a été aussi partagé et mis en place avec nos adhérents le plus possible. En tout cas, ceux qui souhaitaient s'y engager. Les assises qu'on a organisées, bien sûr, c'était des groupes de travail avec notre travail à nous, c'était de mettre autour de la table les gens et puis d'arriver ensemble à produire une réflexion collective et un projet, et apporter un projet commun. Donc ça, c'est vraiment une des valeurs cardinales du réseau, de toujours faire ensemble.
Oui, ou comme les rencontres régionales où tu disais c'est les animateurs des qui font partie des structures adhérentes qui échangent aussi sur leurs pratiques.
Voilà, donc à chaque fois, c'est vrai qu'il y a une dimension dans le principe de formation qu'on porte le plus et qu'on a mis le plus en œuvre, voire même qu'on a le plus théorisé, c'est le principe de co-formation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des apports extérieurs, parce que c'est toujours intéressant de s'ouvrir à un apport d'un chercheur, quelqu'un qui formalise quelque chose. Et en même temps, on a beaucoup aussi travaillé sur comment on pouvait formaliser, et à partir de la pratique de chacun, comment chacun pouvait retransmettre aux autres les difficultés, les réussites, les outils qu'il a pu mettre en place. Ça a été même, on peut dire, au tout départ, en 95, quand cette idée de réseau régional a émergé, ça a été le levier le plus fort, cette volonté, cette nécessité pour des animateurs qui étaient, en 95, donc il y a quand même quelques années, isolés un peu sur les territoires et dans les différentes structures, puisque c'était un métier quand même émergent, éducateur à l'environnement, on ne peut pas dire qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était un vrai métier avec des formations, etc. Ça commençait tout juste à émerger. Donc le premier besoin que ces personnes avaient, c'était d'échanger sur leur pratique, de se rendre compte qu'à 50 km de distance, ils pouvaient développer le même type de démarche et d'outils, parce qu'une collectivité voulait faire de la sensibilisation sur les déchets. Au milieu des années 90, c'était un peu le thème à la mode, le plus à la mode, en tout cas là où les collectivités souhaitaient investir un petit peu d'argent. Et donc chacun pouvait bricoler, développer des outils de son côté. Donc de tout ça, on a fait un rassemblement, un partage de pratiques. On a même en réseau avec d'autres réseaux nationaux. Et donc il y a un réseau national qui nous regroupe tous en Rhône-Alpes. Il y a un Graine Rhône-Alpes, mais sur les autres régions aussi, même si ça ne s'appelle pas toujours Graine, il y a toujours un tête de réseau régional. Et donc il y a un réseau national qui s'appelle le réseau École et Nature. Et donc de toutes ces pratiques menées sur les territoires, on a fait un dispositif pédagogique national qui s'appelle Roule ta boule, qui est un vrai outil d'éducation à la consommation responsable, aux déchets, à la gestion des déchets, au recyclage, etc. Enfin, avec une vraie volonté de mettre en place des pédagogies actives. Donc du meilleur fait par chacun sur le terrain, d'arriver à quelque chose qui peut répondre le plus possible aux besoins qui sont exprimés par l'ensemble des éducateurs.
Et donc depuis 1995, on a vu le nombre d'animateurs, le nombre de structures se développer.
Oui, alors aujourd'hui, donc je disais que dans le réseau, on a dans les deux réseaux Auvergne-Rhône-Alpes, on est à peu près à 200-220 structures. Nous, on peut repérer à peu près, il y a un petit peu plus de structures, parce qu'en fait, il y a ceux qui sont vraiment, leur métier c'est l'éducation à l'environnement. Donc là, on peut les repérer, on sait que sur l'échelon de la région, il y a à peu près 400 professionnels sur Auvergne-Rhône-Alpes, dont le métier au quotidien, c'est principalement d'éduquer, de former, de sensibiliser, d'accompagner ces démarches de participation citoyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre grand nombre à côté qui font de l'éducation dans leur métier. Parce que si on compte tous les enseignants qui sont engagés sur les animateurs de centres sociaux qui ont un potager, qui sont dans une démarche autour de l'alimentation de plus en plus, etc. Ou même des personnes dans des entreprises qui sont chargées d'accompagner, de former les salariés, mais qui du coup y mettent aussi une dimension éducation-environnement, c'est vrai qu'on est beaucoup plus nombreux potentiellement à pouvoir se mobiliser sur cette question-là que les simples professionnels. C'est pas leur graine, il ne faut pas le comprendre comme un simple réseau de professionnels. C'est pas, il n'y a pas une vision corporatiste du tout, on est vraiment dans l'intérêt général. Toutes nos actions sont ouvertes à tout le monde, on n'a pas besoin d'adhérer au réseau pour pouvoir participer à une journée de rencontre, de formation, etc. bien sûr.
Mais en même temps, est-ce que vous essayez de développer? Est-ce que vous essayez d'aller contacter ceux qui ne sont pas venus vous voir? Est-ce que vous essayez de les sensibiliser aussi ou pas?
Alors on essaye le plus possible à chaque fois que, bah, quand on rentre dans la démarche d'assises, les dernières assises en 2013, là, qu'on a fait les troisièmes assises nationales, ça s'appelait Ouvrir l'horizon. Et donc c'est un des axes forts de notre projet, d'ouvrir l'horizon en termes de territoire, en termes d'acteurs, en termes de thématiques. En termes de public aussi, donc voilà, on essaye le plus possible, mais bon, à la mesure de nos moyens aussi. Hein. Il y a énormément de... En tout cas, on est de plus en plus, nous on peut le dire au niveau de l'équipe salariée, on est de plus en plus sollicités au quotidien.
De façon spontanée alors.
De spontanée, par des associations, des porteurs de projets, des jeunes qui veulent se lancer, qui veulent faire ce métier, qui se posent des questions, des enseignants, même dans les formations universitaires, supérieures, etc., qui viennent nous chercher parce qu'ils ont besoin, enfin, ils nous ont repérés, et du coup, ils s'interrogent et ils voient comment, ils se posent la question de savoir comment on peut les accompagner aussi dans le développement de leur projet.
Et puis ça permet aussi à certains acteurs qui sont spécialisés, certains sur l'eau, certains sur la biodiversité, certains sur la question des transports ou de l'alimentation aussi, de ne pas rester segmentés, mais de se connaître et même de faire des choses ensemble.
Voilà, mais ça c'est une vraie problématique qu'on a, hein. On a une culture disciplinaire assez étanche et donc du coup, nous on n'est que sur la transversalité. Hein. C'est-à-dire que la vraie question, le vrai enjeu qu'on a sur ces enjeux d'environnement, c'est vraiment la transversalité des approches qu'on doit mobiliser dans un projet. On ne peut pas, aujourd'hui, un animateur, il ne peut pas être omniscient sur tous les enjeux et sur toutes les connaissances scientifiques, évidemment. Son travail, ça va être d'amener justement le groupe à se poser des questions, à développer une capacité à débattre, en mettre en perspective, à ne pas être dupe et en même temps à ne pas non plus ressortir un discours tout prêt, etc. Parce que bon, on est quand même dans une société de communication de médias qui a plutôt tendance à lisser les choses, à installer des idées un peu toutes faites. Donc nous, on essaye de travailler sur le libre-arbitre, sur la capacité du débat, le regard critique sur les choses, avec les enfants comme avec les adultes. C'est un véritable enjeu aussi, hein, en termes d'éducation.
Et est-ce que vous intervenez auprès des collectivités au niveau de la réalisation de leur budget, par exemple ? L'orientation écologique, ça nécessite une décision à un moment donné. L'environnement, c'est quelque chose qui réclame une action qui soit motivée. Est-ce que ça vous arrive que certains viennent vous solliciter en amont, avant la décision?
Oui, ça arrive. Certaines collectivités se sont intéressées aux dispositifs qu'on a pu mettre en place et coordonner pour voir comment ils pouvaient s'en inspirer.
Voilà.
Ou pas, voilà. Bien sûr, c'est aussi une des missions, une des fonctions qu'on s'est données à travers, par exemple, l'espace. On a mis en place depuis quelques années un espace régional de concertation dans lequel il y a la préfecture de région, le conseil régional, les agences de l'eau, le rectorat, enfin voilà, tous les services de l'État.
Autour
de cette question de l'éducation de l'environnement, avec pour principal objectif, bah, déjà de partager, de faire circuler l'information.
Voilà.
Parce que souvent, on est ignorant les uns des autres des dispositifs, des intentions, voire des actions qui sont mises en place. Et puis avec un véritable objectif d'essayer de mieux articuler les politiques et les projets des uns et des autres, sans se substituer à la décision, hein, des élus ou des services, ou, etc. Mais qu'ensemble, on est quand même une intelligence collective qui permet de mieux gagner en efficacité ou en efficience sur un certain nombre de dispositifs.
Et puis si on en anticipe, il y a plus de chances que ça fonctionne que si on arrive à posteriori où c'est trop tard.
Après, une association de terrain, il faut bien prendre conscience que face à elle, elle peut, pour trouver des financements pour mener son action d'éducation à l'environnement, il y a la commune, il y a la communauté de communes, le département, la région, l'agence de l'eau, le contrat de rivière, etc., 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 etc. Donc ça fait une dizaine de partenaires publics qui peuvent être comme ça sollicités sur un projet. Et souvent avec des choses qui ne convergent pas et des complexités qui font que les projets n'arrivent pas à aboutir.
Hein. Oui, donc, chacun ayant ses propres
objectifs,
intérêts, sa propre réglementation, voilà. Ses propres
donc,
contraintes.
En amont de tout ça, nous, notre souhait, ce serait, dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse ensemble développer en articulation avec les territoires, donc en impliquant aussi les communes et les communautés de communes, puisque c'est quand même là au plus proche du quotidien des habitants, développer ensemble une stratégie ou une réflexion plus concertée, plus partagée pour développer justement l'éducation à l'environnement en appui sur ceux qui savent le faire sur le terrain.
Oui, et puis pas l'appuyer, on va faire de l'éducation à l'environnement de façon abstraite, mais liée à des projets et à des politiques, à des plans, à des choses qui de toute façon se mettraient en œuvre et qu'il vaut mieux pas qu'elles se mettent en œuvre sans ça.
Tout à fait.
Et vous se retrouve après une petite pause.
Je les vois me raconter des salades. Ils disent que la terre est en danger. Ils disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo. Et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur. Manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure. Total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète.
C'était HK et les Saltimbanques, niquons la planète. Retour à la graine.
Donc, retour à la graine ou aux graines. Donc le
aux graines. En fait, graine, ça veut dire groupe régional d'animation et d'initiation à la nature et l'environnement. Voilà. Juste au départ, ça avait du sens. Mais c'est aussi une petite graine qu'on sème dans les espaces.
Voilà.
C'est ambigu.
C'est ambigu, c'est hermaphrodite, il y a du le et il y a du là. Alors tout à l'heure on parlait de la structure en tant que telle, donc on disait 6 salariés. Mais alors 6 oui. salariés c'est plus forcément
c'est
le cas
encore
plus
jusqu'à
pour
maintenant
longtemps.
Mais ce ne sera plus le cas à partir de début 2017, voilà, de janvier 2017.
Et alors, pourquoi
et ça, bah pourquoi? Pour quelque chose, je pense que ça, vous en avez déjà beaucoup entendu parler, c'est les subventions régionales donc, qui, dans certains domaines, ont disparu ou se sont fortement contractées.
Oui, alors pour le Grain, c'est vrai que la région Rhône-Alpes, en tant qu'institution, est un partenaire important depuis le départ, hein, depuis 1995. quand le GREN a émergé au niveau régional, il a toujours été soutenu dans ses actions, ses projets par le conseil régional. On était arrivé à un partenariat qui avait pris la forme d'une convention pluriannuelle d'objectifs, donc sur plusieurs années. Et là, on était engagé sur un contrat avec la région sur 2015, 2016, 2017. Et effectivement, alors pour vous donner un peu le volume, je peux donner juste quand même quelques chiffres. Oui. C'était un gros montant, hein, 276 000 euros que la région attribuait chaque année aux graines pour ses actions. Dont en particulier, bah, près de 100 000 euros sur ces 276 000, sur ce dispositif éco-acteur qui visait à accompagner les porteurs de projets sur le terrain.
Donc à peu près les 70 écoles, projets, les centres sociaux. Et...
Voilà, 70 projets accompagnés chaque année. Plus de près, pas loin de 20 000 jeunes qui, depuis qu'on a mis en place le dispositif, ont été mobilisés sur ces actions concrètes pour le cadre de vie et l'environnement. Et donc cette année, effectivement, avec le changement au niveau de l'exécutif régional, une nouvelle majorité, hein, suite aux élections de décembre de l'année dernière, on avait anticipé, on avait préparé les choses, c'est-à-dire qu'on avait fait un argumentaire, une démarche de rencontre en amont des élections pour essayer d'expliquer ce qu'on faisait et en quoi l'éducation à l'environnement était importante, comme je disais tout à l'heure, pas de transition écologique ou de développement durable sans éducation à l'environnement, sans formation, sans sensibilisation, sans participation. Et donc on a appris en cours d'année, on s'attendait à une baisse de nos subventions, mais on a appris en juillet que le président de région, Laurent Wauquiez, envisageait de baisser, voire même de supprimer carrément la subvention attribuée aux graines habituellement chaque année. Voilà. Alors il y a eu toute une campagne de mobilisation qu'on avait déjà lancée quelques jours avant d'avoir cette décision, parce qu'en fait on va centrer sur notre problématique à nous en tant que tête de réseau régional vis-à-vis de la région, qui est notre partenaire principal, mais il y a aussi sur le terrain toutes les associations locales et tous les acteurs qui sont impactés par ces baisses de financement, hein. D'abord par les baisses de financement un petit peu au niveau des communes, beaucoup au niveau des départements, et puis cumulé avec des baisses d'autres financements et de financements régionaux, bah, qui se trouvent aussi en grande difficulté, dans l'obligation de se séparer, de licencier d'un certain nombre de salariés et de personnel.
Oui, c'est un peu tout le monde aussi de l'environnement qui a impacté.
Donc on avait décidé de lancer cette campagne éducation à l'environnement, au développement durable, on dit EEDD dans le milieu de l'éducation à l'environnement, EEDD tous concernés, pour dire, c'est pas qu'une question qui concerne que quelques associatifs écolos, ayatollahs de l'écologie dans un coin, mais c'est bien tous les enjeux sociétaux aujourd'hui qui doivent prendre en compte ou intégrer cette dimension écologique et de transition et de changement. Donc tous concernés, voilà. On a lancé cette campagne début juillet et donc ça nous a permis de recueillir plus de 4000 signatures, 4170 ou 74 aujourd'hui, je sais pas. De relayer ça auprès des élus de la région, de relayer ça auprès des élus des collectivités locales qui eux-mêmes ont pu interpeller un certain nombre de conseillers régionaux. Et puis avec le soutien du vice-président à la région, Éric Fournier, chargé de l'environnement, on a réussi finalement en septembre à obtenir une subvention de 100 000 euros, donc c'est une baisse d'à peu près
60%. Voilà,
importante quand même, hein, par rapport aux 276 000, voilà.
Il reste plus qu'un tiers, ouais.
Donc le dispositif éco-acteur n'est plus financé dans sa totalité, et ce qui restait, enfin si on enlève ce dispositif, donc 180 000 euros qui vont au fonctionnement et aux actions qu'on porte en réseau sur ce que je disais tout à l'heure, hein, la formation, la valorisation des initiatives, on a 100 000 euros. Alors ça nous permet pas de garder l'équipe de 6 salariés, donc on a 2 personnes dans l'équipe qui ne verront pas leur contrat reconduit en 2017. Donc le conseil d'administration a déjà décidé de baisser quand même la charge, parce que voilà, budgétairement c'est pas possible. Donc oui, ça va avoir un impact sur nos activités.
Mais là c'était la subvention 2016, donc il y a des choses sur lesquelles vous aviez déjà travaillé, donc qui ont été faites, et donc pour lesquelles...
C'est vrai que sur la méthode, on a été très, très interpellant vis-à-vis de la région. Parce
et
que
vous
autant...
doutiez quand même que, comme c'était une convention pluriannuelle, que des choses qui avaient été engagées sur plusieurs années pouvaient être coupées court
Ce qu'on s'en doutait, disons que, enfin, vous trouverez sur le site de la campagne l'ensemble des étapes par lesquelles on est passé depuis novembre 2015, date à laquelle on a déposé notre dossier. On a fait des propositions en début d'année à la région de baisse d'une vingtaine de pourcents ou d'un peu plus de notre. On était prêt à renégocier notre projet. On a plusieurs fois interpellé l'exécutif en disant on est prêt à renégocier notre partenariat. Enfin, on comprend tout à fait que arriver à la présidence de la région, vous souhaitiez mettre en place de nouvelles orientations. C'est tout à fait légitime, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc, par contre, nous, on est toujours dans cette logique de partenariat, cette volonté de discussion et de concertation. On nous a dit non, votre projet, on continue à y tenir, on le trouve important, on souhaite maintenir le niveau de financement. Donc on a reformulé notre dossier, notre demande, parce que les élus, les services souhaitaient qu'on le fasse, ce travail de reformulation, pour être plus clair, mieux compris par les nouveaux élus, ce qu'on a fait donc en mars. Et puis du coup, depuis le mois de mars, il n'y a plus aucune réponse de la région sur le soutien qu'elle pourra apporter. Sauf cette information en début juillet que ce serait zéro. Donc finalement, on a réussi quand même le 22 septembre à avoir 100 000 euros. Mais c'est vrai que mais je crois que tout le monde peut le comprendre, que ce soit pour sa vie, dans sa vie personnelle, ou pour si on est gérant d'une entreprise ou n'importe quoi. Enfin voilà, apprendre que son principal client, on va dire entre guillemets, ou partenaire financeur, se désengage, ou de pas savoir à quelle hauteur il s'engage réellement. Qu'avant le mois de septembre, ben c'est vrai que ça nous met, nous, dans la capacité totale de nous réorganiser, de nous restructurer, de repenser les choses autrement. Donc on a pour seule solution, pour le moment, de baisser la charge de personnel, de garder que 4 salariés, et puis en 2017, d'essayer de reformuler notre projet, de le reconstruire, de le redévelopper, en espérant que ça va passer. C'est vrai que c'est juste un sursis de quelques mois, hein, ça ne règle pas tous les problèmes. On garde 4 salariés en 2017 parce que c'est le choix du conseil d'administration de garder une capacité d'initiative suffisante pour continuer à développer nos projets, mais ça ne marchera à long terme que si la région pérennise son soutien, même s'il est diminué. Donc si en 2017 la région nous dit ben non, cette année ce sera zéro, finalement on se retrouvera exactement dans les mêmes situations, les mêmes difficultés. Alors c'est vrai qu'un réseau régional avec plus de 200 adhérents, avec tous les enjeux à porter sur les différents territoires de la région, avec un salarié ou éventuellement deux, bah, c'est plus du tout la même histoire, c'est plus le même projet, quoi. C'est pour moi qui suis là depuis 15 ans à la direction du GREN, et avant même y avoir été, puisque j'étais animateur sur le terrain, militant, c'est un retour 20 ans en arrière, quoi, en fait, hein. On retrouve une situation où finalement on a très peu de capacité de mobilisation d'initiative pour des projets collectifs parce qu'il n'y a plus l'énergie. Voilà. Alors cependant, l'effet positif quand même, parce qu'il faut quand même en voir, hein, c'est que pendant 2 jours, on a réussi à mobiliser nos adhérents, une 50aine de personnes, pour réfléchir à cette situation. Déjà, trouver des formes de résistance et surtout trouver des formes d'adaptation. S'il n'y a plus d'équipe salariée ou si les moyens sont fortement diminués en termes salariés et financiers au niveau de la tête de réseau régional, comment nous, acteurs de terrain, adhérents du réseau, croyant encore à l'éducation, à l'environnement et à sa nécessité pour la transition écologique, comment on s'organise pour continuer à travailler ensemble. Et là, y a 50 personnes qui ont travaillé pendant 2 jours là-dessus. Donc pour nous, c'est un vrai,
et vous en avez
c'est un vrai espoir pour
un
la
peu
suite.
Des alternatives, des propositions.
Ah ben, des propositions, déjà, c'est vrai qu'il y a tout l'enjeu de faire exister un réseau à l'échelon de Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a la nécessité de maintenir le plus de liens possible entre les acteurs et les adhérents. Donc des gens sont prêts à s'engager pour que, à l'automne de l'année prochaine, on organise 2 jours de rencontres pour que physiquement on ait ce temps, cette proposition de rencontre physique des acteurs entre eux. Il y a des groupes de travail qui sont prêts à se mobiliser, continuent à se mobiliser sur des entrées thématiques fortes autour de la biodiversité, autour des déchets, de l'eau, etc. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent continuer à perdurer, mais sous une forme différente. En tout cas, il y a des gens qui sont prêts à prendre le relais. Et donc, du coup, nous, même en restant à 4, on va beaucoup s'appuyer aussi sur ces énergies qui sont exprimées pendant 2 jours, parce que ça redonne aussi du sens au projet collectif qu'on souhaite partager avec le plus grand nombre de personnes à l'échelon de la région.
Et ces personnes, c'est des salariés des structures ou c'est aussi des bénévoles?
Alors, c'est beaucoup des salariés de structures. Mais il y a quelques bénévoles d'associations qui sont aussi bien présents et bien engagés à titre militant, qui sont voilà, dans des conseils d'administration d'associations sur le terrain et qui sont persuadés, convaincus que la mise en réseau, ce partage en réseau des compétences a été jusque-là nécessaire, leur a permis de développer leurs projets, d'améliorer leurs pratiques, de porter plus haut aussi leur discours sur leur territoire vis-à-vis de leurs partenaires sur l'éducation et l'environnement, et qui aujourd'hui sont complètement convaincus que cette mise en réseau des acteurs, elle est efficace et elle sert à quelque chose. Donc ça, ils ne veulent pas le lâcher, parce qu'ils savent très bien que... Alors, quand on est en difficulté, on a beaucoup moins de temps à consacrer à ces dynamiques d'échange et de réseau, forcément, parce qu'il y a l'urgence du quotidien, il y a les activités, les animations qu'il faut faire absolument, parce qu'il y a une pression économique qui est sur les structures. Mais en même temps, il y a une vraie conscience aujourd'hui que c'est encore plus important de se parler, de se concerter, de se réunir, de se mettre en réseau, de partager tout ça, et de trouver des formes collectives aussi pour être plus efficace ensuite sur le terrain. Des formes de mutualisation, d'outils, de personnes, de projets, etc.
Et vous avez mobilisé aussi, par exemple, des enseignants avec lesquels vous étiez en réseau dans les...
Alors, il y a très peu d'enseignants qui sont engagés dans les dynamiques de réseau, aussi bien en Rhône-Alpes que sur les autres régions. C'est-à-dire qu'au tout départ de la mise en réseau au niveau de la région, il y avait quelques enseignants qui étaient vraiment présents. Les premières rencontres régionales, d'ailleurs, qu'on avait mis en place, se faisaient pendant un temps de vacances scolaires, justement pour que des enseignants militants puissent nous rejoindre et participer. Petit à petit, ils ont été moins nombreux, et maintenant les rencontres sont plutôt sur un temps en dehors des vacances, en temps de semaine, donc effectivement beaucoup plus dédiés à des professionnels ou à des personnes qui peuvent dégager du temps ou sur leur temps de travail ou sur du temps de récupération ou de congé. Donc souvent, les enseignants, ils ont du mal, sauf quand on arrive avec les institutions de l'éducation nationale, les inspections académiques ou les rectorats, à inscrire ces actions de rencontre dans des actions de formation qui sont inscrites au plan académique de formation. Bon, ça peut arriver. Il y a un certain nombre d'enseignants qui arrivent encore à trouver des moyens en interne et des accords pour trouver des financements, pour participer. Bon, on arrive toujours à trouver des solutions. En tout cas, on essaye de faire en sorte que l'aspect financier, puisque les gens consacrent du temps, l'aspect financier ne soit pas non plus tout le temps un facteur qui puisse bloquer les participations. Quoi.
Néanmoins, le budget, c'est quelque chose d'annuel. Voilà. Donc, il va pas forcément être reconduit à l'identique l'année prochaine. Et est-ce que vous avez envisagé de mener des actions de lobbying, de recontacter, d'essayer de convaincre, d'apporter des arguments, d'essayer de faire en sorte que ça évolue?
Alors, dans les actions qu'on a commencé à mettre en œuvre et à élaborer avec nos adhérents, que nos adhérents ont proposé de mettre en place pendant ces deux jours du 9 et 10 septembre, il y a effectivement tout un travail de rédaction d'un texte plaidoyer, d'interpellation, voilà, etc. Bon, c'est vrai qu'avec la région, on n'a pas du tout abandonné, et notre convention pluriannuelle d'objectifs, elle dure encore jusqu'en 2017, elle n'est pas remise en cause. Donc il y a encore une logique de construction du projet 2017 avec eux, dans laquelle on est engagé. Là, c'est les jours qui viennent, quoi, en fait, hein, puisque le budget de la région va être voté à l'assemblée plénière du mois de décembre, je crois, ou de novembre. Donc c'est en ce moment que ça se discute avec le conseil régional. Et, voilà. Donc on est en plein dedans, mais on n'a encore aucune assurance pour 2017. Voilà. On a des partenaires publics comme l'ADREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, qui maintient son partenariat, hein. Donc on a aussi une convention pluriannuelle d'objectifs. L'agence de l'eau, d'autres partenaires aussi sont prêts à réfléchir avec nous, à essayer de voir comment on peut développer de nouveaux projets ensemble qui leur permettraient de renforcer éventuellement leur soutien au réseau. Et puis début novembre, on va lancer dans quelques jours, une dizaine de jours, une campagne de dons. Pour que tous ceux qui souhaitent apporter un tout petit peu de soutien financier aux graines pour qu'ils puissent continuer à poursuivre son activité, à mettre en œuvre son projet de mise en réseau des acteurs à l'échelon d'Auvergne-Rhône-Alpes, bah, puissent aussi y participer financièrement. Donc cette campagne de dons, elle va se dérouler sur un... Alors il y a plein de sites possibles ou d'outils possibles de crowdfunding, hein. Donc nous, on va travailler avec la plateforme Zest de la Nef, qui est la Nef, pour ceux qui ne connaissent pas, une banque
solidaire, nouvelle économie fraternelle.
Voilà, et avec qui on partage un certain nombre, bien sûr, de valeurs, et avec qui on veut travailler, aux côtés du Crédit Coopératif aussi.
Campagne de dons, elle est dans le cadre de la campagne d'aider tous concernés.
Voilà, c'est la poursuite, c'est une des poursuites possibles de la campagne d'aider tous concernés. Et puis après, il y a les actions de mise en œuvre du projet 2017 dans laquelle on va, toujours dans la campagne EDD tous concernés, continuer à mobiliser nos adhérents, voire les sympathisants, tous ceux qui croient que l'éducation à l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est encore une nécessité pour les années qui viennent.
Et donc c'est l'idée aussi, on parlait... Est-ce qu'il y aura un espèce de plaidoyer ou est-ce que vous allez écrire des choses, faire des choses plus publiques et associer autrement d'ailleurs que financièrement justement les sympathisants ou...
Pour le moment, on est en réflexion là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre posture, hein, ce qui a été le plus partagé pendant les deux jours de travail qu'on a fait avec les adhérents début septembre, c'était de se dire, bon, ok... politiquement, il y a de nouvelles orientations, d'ailleurs qu'on ne connaît pas encore, hein, puisque la région n'a pas vraiment dit quelle était ni sa politique environnementale et encore moins quelle était sa politique en termes d'éducation environnementale. Donc on attend et on espère qu'on aura des indications là-dessus. Donc là, on est conscient que bon, le contexte, une nouvelle majorité, porte une nouvelle politique et de nouvelles orientations. Par contre, sur la méthode... Là, on ne trouve pas normal qu'étant engagé dans une convention pluriannuelle et dans un partenariat, même s'il y a changement d'exécutif, on ne respecte pas ou on nous mette, on ne nous réponde pas pendant aussi longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui en plus est très... Enfin, quand on en parle avec toutes les associations ou les autres secteurs, de la culture, de l'agriculture paysanne, du champ du social, de l'éducation populaire, tout le monde dit la même chose. On n'a pas pu rencontrer le vice-président, on a eu du mal à avoir un contact, on ne sait pas encore, ce n'est pas encore voté, ce n'est pas encore décidé. Tout le monde est en situation d'incertitude. Donc ça, avec le mouvement associatif Rhône-Alpes, qui regroupe une grande partie des familles associatives, une très grande partie des familles associatives, on souhaite aussi le questionner, le mettre en avant. Et puis on souhaite aussi promouvoir l'idée que les associations... ce ne sont pas que des consommateurs d'argent public qui ne sert à rien. C'est aussi la crèche parentale, c'est aussi le centre de loisirs des enfants, de vos enfants, c'est aussi plein d'activités culturelles, sociales, sportives, etc. C'est aussi des solutions en termes d'habitat durable ou social pour un certain nombre de personnes. C'est aussi des équipements dédiés à la santé, hospitaliers, etc. Enfin, tout n'est pas dans le privé aujourd'hui. Donc le secteur associatif représente en Rhône-Alpes à peu près 10% de l'emploi salarié, avec un poids économique extrêmement important. Donc ce secteur qui est majoritaire dans l'économie sociale et solidaire, ben il est aussi facteur de lien social, de développement des territoires. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui nous semble complètement incompréhensible que des élus, quel que soit le bord politique d'où ils sont, puissent ne pas prendre vraiment en compte. Quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose. Donc avec le mouvement associatif, on essaye de porter ce discours-là et de l'argumenter, et y compris en termes d'emploi, hein, parce que nous, on parle de 2 salariés aux graines en moins, mais sur l'ensemble du réseau d'éducation à l'environnement, on estime pour le moment, dans les remontées d'informations qu'on a, à 30 ou 40 salariés qui vont perdre leur poste d'ici la fin de
l'année 2017,
sur la région Rhône-Alpes. Mais sur l'échelon du mouvement associatif, sur 500 associations à peu près qui ont répondu à un questionnaire qu'on a lancé, il y a déjà 300 emplois supprimés en 2016 et plus de 300 emplois qui vont être supprimés en 2017. Donc si on extrapole ça je sais pas combien il y a de milliers d'associations employeuses sur l'échelon du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on peut se dire que les conséquences, y compris en termes d'emploi, vont quand même être importantes.
Bah, d'autant qu'on parlait de la baisse des crédits, des finances publiques, et ça ne date pas non plus d'aujourd'hui. On a d'autres associations, il y a quelques années aussi, qui ont disparu. Je pense par exemple à la Maison du Rhône ou des choses...
Oui, alors après...
Pour finir, c'est aussi qu'il y a beaucoup aussi d'actions publiques qui a été reportées sur les associations. Donc il n'est plus fait par les pouvoirs publics et plus fait par les associations. Et on voit la deuxième étape où même ces associations ont du mal à survivre alors qu'elles font un travail d'utilité publique, tant parce qu'elles font le boulot des pouvoirs publics, que, comme tu disais, parce qu'elles ont aussi une action sociale sur le terrain.
Et de citoyenneté. C'est une vraie, un vrai enjeu pour les années qui viennent, cette question de la citoyenneté, de l'engagement citoyen qu'il faut absolument développer. Quoi. L'engagement des jeunes, l'engagement des adultes.
C'est une façon de pallier à la carence de certains services publics, voilà, quelque part. Et donc... la région, probablement, peut être sensible aussi à de nouveaux arguments que vous pourriez développer. Enfin, voilà.
Et du coup, pour continuer, c'est vrai qu'après, il y aura... Bah, nous, on n'est pas c'est pas encore complètement décidé, mais il devrait y avoir aussi, c'est possible qu'il y ait des actions plus d'interpellation sur la place publique des citoyens. Alors ça, on est en train d'y réfléchir avec d'autres. On ne souhaite pas le faire tout seul. Donc on verra quelle forme ça pourra prendre dans les semaines à venir. Mais c'est aussi une volonté de se dire, c'est pas qu'un... Et d'ailleurs, nous, quand on a commencé à communiquer, à envoyer des communiqués de presse, à informer à travers cette campagne sur ce qui se passait, on a compris combien c'était important de pouvoir...
faire pression.
Non seulement faire pression, mais de faire partager... déjà ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on en discute autour de nous, dans nos familles, dans nos réseaux d'amis, bah, finalement très peu de personnes ont conscience de ce qui est en train de, enfin de ce qui se passe réellement, pas pour dire qu'il se passe quelque chose, attention, etc. On vous en cache, mais simplement cette information ne circule pas. Donc pour nous c'est très important et on a vu combien c'était important que ces 4000 personnes nous soutiennent finalement sur le site qu'on a lancé, la campagne d'aider tous concernés. Et donc ça va se poursuivre d'une manière ou d'une autre, soit en développant et... Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas... Notre projet, ce n'est plus que l'éducation à l'environnement, ce soit qu'une affaire d'experts, de professionnels. C'est vraiment qu'ouvrir l'horizon, ça veut dire que ça doit être aussi une question que les citoyens ou que des citoyens peuvent traiter, dont ils peuvent s'emparer. C'est aussi une façon de trouver des réponses aux crises, aux difficultés qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour nous et c'est pas simple. Mais en tout cas, on a cette volonté et puis on a cette énergie avec ce qui s'est passé là dans les dernières semaines. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je peux pas trop vous le dire pour le moment parce qu'on est vraiment dans une logique de co-construction avec d'autres acteurs, de nos adhérents, etc.
Voilà. Et donc ça, on peut le suivre sur, notamment sur le site d'aider tous concernés.
Voilà, donc il y a un site internet qui s'appelle, donc c'est EEDD-tous concernés, EEDD-tous-concernés, avec un S, puisqu'on est tous concernés, .org. Voilà, on n'a pas féminisé le truc, on aurait pu. Donc là, vous allez trouver non seulement des textes qui disent aussi notre positionnement, vous allez trouver en ligne, on a eu le souci d'écrire toutes les étapes par lesquelles on était passé, pour que ce soit transparent et clair, justement, parce que cette information ne circule pas, ce qu'on a vécu. Et puis on a 80 personnes, acteurs, structures, et d'autres, puisque ça ne s'arrête pas, hein, qui peuvent continuer à le faire, qui témoignent de leur action, qui témoignent de l'intérêt pour eux, à la fois d'être en réseau, mais aussi de ce que c'est que l'éducation à l'environnement. Et donc là, il y a une vraie diversité, déjà une vraie, c'est une vraie porte ouverte pour ceux qui ne connaissent pas sur ce que c'est que l'éducation à l'environnement.
Pour donner à voir concrètement
en Rhône-Alpes, pour voir concrètement ce que c'est. Et derrière, quelles sont les intentions pédagogiques et les intentions éducatives qu'on porte. Ça, c'est vraiment important. Donc ça continue. Hein. Le site est animé.
Est-ce qu'on peut
la campagne de dons va être lancée.
Des documents pour se les approprier.
Tous les documents sont téléchargeables librement. Beaucoup en licence Creative Commons parce que on donne. C'est le principe du réseau. En même temps, on demande aussi à ce qu'on puisse être ou cité ou valorisé. Enfin, pas oublier quand même que derrière, pas nous, Le Grain en tant que tel, mais toutes les personnes qui y ont travaillé, qui ont mis de l'intelligence collective, hein, c'est ça qu'on souhaite aussi valoriser, pas oublier au passage, mais tout est libre d'accès et téléchargeable, bien sûr.
Et donc, est-ce que vous disiez comment aussi s'engager, vous rejoindre ou vous soutenir? Donc, il y a effectivement la pétition, il y aura le crowdfunding bientôt. Mais voilà, si on peut se dire, voilà, ça a titillé, je suis intéressée, je voudrais bien qu'il fasse un événement justement pour en savoir plus, ou est-ce que aussi les personnes peuvent adhérer pour aussi montrer un soutien?
Complètement. Donc, pour adhérer à titre individuel, c'est 10 euros pour une année. C'est pas, on n'achète pas un service particulier, hein. On signifie simplement son adhésion au projet et par contre on est effectivement destinataire d'un certain nombre d'informations qu'on fait circuler sur nos listes internes d'adhérents, etc. Mais on peut aussi sur notre site internet s'inscrire à notre newsletter et donc recevoir régulièrement des informations. Donc là, il n'y a pas besoin d'être adhérent pour le faire. Et puis sur le site, bah, vous trouvez toutes nos coordonnées pour nous contacter. Voilà, si vous voulez monter un projet, si vous avez envie de développer un outil pédagogique, si vous ne savez pas comment faire, bah, on trouvera toujours, malgré le fait qu'on ait de moins en moins de temps et que c'est compliqué pour nous en ce moment, on trouvera toujours un relais, une personne, une structure vers laquelle vous rediriger, vous mettre en contact. Voilà, cette animation de réseau qui vise à renforcer les liens ou à les développer entre les acteurs, c'est vraiment le cœur de notre
métier. C'est votre acquis.
Voilà.
On ne pourra jamais vous le supprimer, celui-là.
<Non.
rire> Eh bien, on vous remercie beaucoup.
Ben non, c'est nous qui vous remercions.
Et
c'est vrai qu'on a besoin quand même de dire aussi ce qui se passe.
C'était l'occasion.